Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission Drôle de Dames sur Fréquence 7. Le vendredi 22 mars, c'était la journée mondiale de l'eau, élément vital pour la survie de l'humanité tout entière. Après 15 ans de débat, le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a reconnu l'accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires comme, je cite l'organisme, un droit fondamental de l'homme indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie. Effectivement, on sait que l'eau est un élément absolument vital pour nous. Malgré cela, en France, on constate encore que 12 millions d'usagers restent sans assainissement collectif, que de nombreuses coupures d'eau illégales sont pratiquées et que les tarifs de l'eau potable ne cessent d'augmenter. Alors, l'eau est-elle vraiment un bien commun? L'eau potable est-elle menacée? Et plus largement, alors que le gouvernement tente de se donner une image verte en lançant le plan France Nation Verte et en impulsant des organisations de COP régionales et départementales pour promouvoir une transition écologique, quel regard et quelles actions pouvons-nous engager pour qu'il y ait vraiment une transition écologique qui œuvre pour l'intérêt général humain et même pour la survie de l'humanité? Alors pour parler de tout cela, et en particulier de l'eau, nous accueillons dans notre studio Daniel Amram, présidente de l'association Au Bien Commun, Olivier Dessert. Alors Daniel, un grand merci à toi d'être venu et bonjour.
Bonjour Florence, ravie d'être là avec vous.
Alors, peux-tu nous expliquer ce qui a conduit à la création de cette association, en quelque sorte? Quelle est la genèse, l'histoire de cette association? Qu'est-ce qu'elle défend? Quels sont ses objectifs?
Alors l'histoire, elle est assez simple, c'est que on a pris l'association Au Bien Commun Olivier Dessert, qui donc s'occupe du territoire Olivier Dessert, qui représente 18 communes, et à peu près un peu plus de 7000 usagers, enfin foyers, existaient déjà. En fait, le président de cette association, qui à l'époque s'appelait le CRIC il y a quelques années, a cessé d'exister et on a recréé une autre association qu'on a appelée Au Bien Commun. Alors l'objectif est resté le même, c'est considérant que effectivement non seulement l'eau est un bien commun, mais c'est un bien vital, parce que je rappelle, comme tu le disais tout à l'heure, que c'est indispensable à la vie, c'est-à-dire que 3 jours sans eau, on peut en mourir, il n'y a pas de vie possible sans eau. Ça nous paraissait être un véritable scandale, déjà qu'il faille la payer. Hein, on se disait, est-ce que c'est la seule solution? Est-ce que c'est possible de priver les gens d'eau sous prétexte qu'ils n'ont pas assez d'argent pour la payer? Ça nous paraissait dingue quand c'est vital. Hein, on revient toujours à cette question-là. Alors bien sûr, ça fait réfléchir sur, finalement, l'utilisation de l'eau. Il y a celle qui est nécessaire à la survie, puis après, il y a celle, entre guillemets, qui est un luxe, comme par exemple avoir une piscine, entretenir des golfs, enfin, tout ça. Bon, et ça nous paraissait complètement illogique que, justement, l'eau coûte moins cher quand on en consomme beaucoup, et que pour survivre, on doit la payer aussi cher. Donc, l'objectif de cette association, c'est réellement de lutter contre la privatisation de l'eau et toutes les formes de marchandisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a été très choqués d'apprendre qu'en Californie, et ça a été un déclic quand même important lors de la création de cette association, l'eau est cotée en bourse en Californie. Donc c'est c'est complètement dingue de penser qu'on peut jouer de l'argent à la bourse avec un bien dont on a absolument besoin. Alors on se dit, après qu'est-ce qui va se passer? On va aussi privatiser l'air. Quand c'est vital, voilà. Et donc l'objectif, c'est d'être très attentif, puisqu'il y a un syndicat à l'heure actuelle qui est la SOR, qui utilise la SOR pour la gestion de l'eau. Et notre objectif en tant qu'association, c'est d'essayer d'obtenir de construire une régie publique et non pas un service privé comme ça l'est à l'heure actuelle.
Et donc, du coup, ça signifierait éventuellement un tarif progressif de l'eau, des choses comme ça ?
Alors, déjà, on a été quand même assez choqués parce qu'on a rencontré tous les élus, pratiquement tous, des 18 communes. On en a rencontré au moins 16. On a rencontré les conseillers municipaux et leurs maires, pour se rendre compte qu'en fait, les décisions sont prises par le maire et un collaborateur, ce qu'on appelle les délégués syndicaux à l'eau, qui vont dans les réunions du comité mixte syndical. Et on s'est rendu compte que l'ensemble des conseils municipaux n'étaient au courant de rien. C'est-à-dire que non seulement ils ne savent pas comment sont faits les choix, à partir de quoi on décide de rester à l'essor, hein. Et c'est vraiment une bataille à mener, qu'on continue à mener, de surveiller les choses. On édite un petit bulletin qui s'appelle « Au bien commun », qui essaye d'informer au maximum les usagers. Et on se rend compte que les élus en savent très très peu. Et que donc, pour mener une telle bataille, pour avoir une véritable conscience des enjeux, qui sont quand même très importants vu les problèmes de sécheresse. On sait qu'on va avoir des choses graves à gérer. On n'a pas réussi à entamer un véritable dialogue. Et c'est une préoccupation importante, puisque tant qu'ils ne comprennent pas les enjeux, on ne pourra pas obtenir une régie publique.
D'accord. Alors, tu viens vraiment de mettre l'accent sur la nécessité de reconnaître l'eau comme un bien commun et de fait parvenir à une organisation pas seulement citoyenne de la gestion de l'eau, mais vraiment créer une régie publique de l'eau. Est-ce que tu crois que ce serait une nécessité vraiment à considérer dans la transition écologique voulue par le gouvernement ? Autrement dit, est-ce qu'il existe quand même déjà des régies publiques en France ?
Alors, il y en a énormément, et la tendance, on peut dire la tendance lourde en France, c'est le passage en régie publique. Et énormément de communes se sont rendues compte, et même des grosses communes, des villes entières, hein, Paris, dans l'Essonne, enfin, il y a énormément de grosses communes qui sont passées en régie publique, parce que justement, elles arrivent à faire des choses extraordinaires, pas à court terme, mais à moyen terme, elles arrivent à baisser des tarifs. Ça, c'est l'intérêt de l'usager. Mais bien plus que ça, elles arrivent à faire des travaux, les travaux nécessaires pour qu'il n'y ait pas de fuite, donc pas de perte d'eau. Sachez quand même que quand vous payez votre eau et que dans le transport de l'eau, l'eau qui a été donc traitée, il y a des fuites. Hein, et par exemple, sur notre territoire, il y a plus de 20% de fuites, 25% de fuites. Oui, cette eau-là, on la paye. Vous la payez dans votre facture. C'est-à-dire que la SOR ne considère que l'eau qui a été traitée. Et elle fait comme si elle avait tout été distribuée, alors que 25% de cette eau passe dans les pertes et les profits, quoi. Hein, voilà.
Oui, on sait même que dans les petites collectivités, dans 18% des petites collectivités, c'est presque un litre d'eau sur deux même qui sont gaspillés et qui n'arrivent pas justement à notre robinet. Donc du coup, une question aussi qui serait peut-être importante que nos auditeurs entendent, quand il y a passage à la régie publique, les salariés qui travaillaient pour la SOR, prennent-ils des risques, en fait, à ce qu'il y ait un passage à la régie publique ?
Alors, c'est ce qu'on a vraiment essayé. On a même appelé des intervenants pour expliquer tout ça, fait une conférence publique. Pas du tout. C'est-à-dire qu'une régie publique, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. En fait, le syndicat mixte décide une régie, récupère les fonds du syndicat et crée cette régie en se mettant à recevoir, la régie se met à recevoir immédiatement l'argent qu'avait la SOR. Donc en fait, non, le personnel est repris dans sa totalité. Justement, on en a besoin. Il va changer de statut et avoir un statut beaucoup plus protecteur puisqu'il devient pas fonctionnaire, mais enfin, employé territorial. Donc c'est même plutôt avantageux pour la personne qui est engagée. Et donc c'est pas le problème. ce serait un avantage pour tout le monde, mais le problème, c'est que les élus sont ignorants, pas très curieux de la question et pas très intéressés. Et donc, moi, un gouvernement qui lance une véritable transition écologique doit se préoccuper absolument de ce problème de l'eau, parce qu'il est extrêmement important pour la vie de tous et qu'il faut vraiment y penser. On risque de voir arriver un boursicotage autour de l'eau, quoi. Voilà, ça peut devenir un produit financier.
Ben merci beaucoup, Daniel, pour ce témoignage.
Merci à vous.
Bonjour. Quand on dit réchauffement ou dérèglement climatique, nous pensons aussitôt à gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone ou CO2. Ce gaz serait responsable de 65% de l'effet de serre d'origine humaine. Le réchauffement climatique et ses répercussions sont déjà visibles un peu partout sur la planète. Comment agir et faire baisser notre empreinte carbone? Je suis donc allée faire le test sur le simulateur de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle de trois ministères, du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ses missions, son organisation et son fonctionnement sont fixées par le Code de l'environnement. Un conseil scientifique oriente sa politique sur la stratégie, la recherche et son développement. Ce simulateur est calculé selon les grandes catégories de la vie quotidienne, alimentation, transport, logement, services publics, numérique. Ensuite, des actions sont proposées aux utilisateurs pour réduire leur empreinte carbone. Plus votre empreinte carbone est élevée, plus vous contribuez au réchauffement climatique de la planète. Je sais, beaucoup pensent qu'il faudrait d'abord agir sur l'empreinte carbone des entreprises et de celle des riches. Pourtant, le dérèglement climatique est l'affaire de tous et toutes. Il n'y a pas de petits gestes. À mon sens, chacun, chacune est concerné. Nombre d'associations que je ne citerai pas pour ne pas courir le risque d'en oublier vous expliquent comment vous pouvez agir. Bien sûr, c'est loin d'être parfait, car selon que l'on prenne souvent sa voiture pour le travail, les courses et autres obligations, selon si le lieu de résidence se trouve en ville ou à la campagne, selon l'accès au transport, aux services publics, qui depuis quelques années ferment et s'éloignent des zones rurales, l'empreinte carbone peut varier du simple au double. Quelques trucs simples peuvent vous aider. L'alimentation, manger moins de viande, plus de légumes, plus de fruits, consommer des produits locaux et en circuit court. Pour ceux qui le peuvent, aller au travail en marchant ou en vélo si le lieu de leur travail n'est pas trop éloigné. Opter pour un fournisseur d'énergie à faible émission de CO2. Réduire les achats non obligatoires, réutiliser et recycler pour gaspiller moins. Pensez vêtements d'occasion et ceux qui le peuvent, vêtements bio, bambou, chanvre, coton, lin, à impact environnemental bien moindre. Choisir des appareils à faible consommation d'énergie. Voyager moins ou voyager mieux. Préférez le train à l'avion, ce qui réduit l'empreinte carbone de votre voyage de 90%. Et sinon, en avion, préférez des vols directs. Régler la température de votre maison 1 degré de moins allège votre empreinte carbone de 300 kg d'émissions de CO2, mais réduit aussi votre facture d'énergie. Si vous voulez faire le test pour connaître votre empreinte carbone, tapez sur votre clavier « Simulateur empreinte carbone ADEME ». Je reviens sur l'alimentation et je ne vais pas non plus faire la liste de ce que l'on peut faire chez nous pour consommer local et en circuit court. En Ardèche, nous sommes plutôt bien lotis de ce côté-là. Marchés locaux, marchés saisonniers, ventes directes à la ferme, magasins de producteurs, AMAP. Les circuits courts limitent les intermédiaires. Vous consommez de saison et vous connaissez la traçabilité des produits. 21% des exploitations françaises pratiquent la vente en circuit court. Pour tous ceux qui désirent participer encore plus et qui veulent agir pour la planète, sur Aubenas et alentours, vous trouverez également un grand nombre d'associations écologiques et environnementales. Allez voir la liste sur l'annuaire des associations d'Aubenas ou celui de l'Ardèche.
pas au courant ?
Mais non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est dans les tuyaux.
Bonjour à tous. Ce mois-ci était riche en actualités bonnes et moins bonnes. Et on me dit que ce mois-ci, Claude, tu vas nous parler de PFAS ou polluants éternels. Qu'est-ce que c'est et quel impact ça a ?
Oui, ça a l'air d'être compliqué. Donc les PFAS ou polluants éternels sont des molécules utilisées par l'industrie qui peuvent contaminer les sols, l'eau et donc notre alimentation. Ils sont partout. Une campagne d'analyse menée pendant 7 mois à travers la France prouve que 94% des personnes testées présentent des résidus d'au moins une substance appartenant aux polluants éternels.
Semble-t-il, le ministère des Armées a annoncé une collaboration.
Oui, c'est étonnant, avec EDF, pour utiliser la puissance des réacteurs d'une centrale de la Vienne afin de produire du tritium, gaz rare, indispensable aux armes de la dissuasion. Un isotope d'hydrogène avec un proton et deux neutrons. Le tritium n'est présent qu'en très petite quantité sur Terre. Il s'agit d'exploiter la puissance des deux réacteurs de Civaux pour, en marge d'une production d'électricité inchangée, irradier dans le cœur des réacteurs des matériaux particuliers contenant du lithium qui seront transférés vers un site du commissariat à l'énergie atomique afin de produire du tritium. À suivre.
Cette fois-ci, quelques bonnes nouvelles qu'on va aborder ensemble. Une victoire.
Oui, on avait parlé le mois dernier des travailleurs d'Uber et d'Elvero. Et en fait, le Parlement européen renvoie Macron, Orban et Mélanie dans les cordes. Il met la pression sur les plateformes Uber, Deliveroo & Co, exigeant le salariat et tous ses avantages pour les livreurs. Une victoire pour l'eurodéputée Leila Shaibi, qui porte depuis 4 ans ce projet.
En ce moment, on parle de fast fashion. Qu'est-ce que c'est et pourquoi on en parle ?
Alors, la fast fashion, c'est une mode jetable, un renouvellement rapide des collections, des produits à faible coût, un impact social et environnemental, je savais que j'allais le faire, désastreux. Le 14 mars 2024, à l'Assemblée nationale, a été adoptée à l'unanimité la loi Fast Fashion qui prévoit notamment l'interdiction de la publicité et la mise en place d'un système de malus sur ces produits. La proposition de loi doit désormais être examinée par le Sénat.
Alors, d'autres choses concernant le Sénat ?
Oui, celui-ci, le 21 mars 2024, il ne nous a pas déçus, il a rejeté l'accord de libre-échange avec le Canada, appelé CETA, rappelant le déni de démocratie du pouvoir macroniste qui a refusé pendant 5 ans de l'examiner faute de majorité.
La mortalité au travail ne cesse d'augmenter.
Hélas, 58 travailleurs depuis le début de l'année 2024 ont perdu la vie sur leur lieu de travail. On n'en parle jamais.
Malheureusement, non. Local, je voulais savoir, cette année, qu'est-ce qu'elles apportent, les cloches ?
Eh bien, à Saint-Pierre-de-Colombier, elles apportent un arrêté préfectoral en date du 18 mars 2024. La préfète de l'Ardèche suspend de nouveau les travaux jusqu'à ce qu'une demande de dérogation, espèce protégée, flore, soit déposée et accordée. La famille missionnaire, bien entendu, fait appel. Tous les samedis, nous nous rassemblons à l'Agora à 11h en soutien au peuple palestinien. Exigeons le cessez-le-feu. N'oublions pas que le gouvernement français est complice et regarde ailleurs.
Et malheureusement, il n'y a pas que là que le gouvernement français est complice et qu'il regarde ailleurs. Je voulais, à l'aube du 7 avril qui arrive bientôt, avoir une pensée pour toutes les victimes du génocide du Rwanda qui a eu lieu en 1994 et leur dire dans leur langue « Kwibuka ».
Culture et moi.
Oui, pour reprendre la thématique de l'écologie et en particulier de la transition écologique, je voudrais aujourd'hui vous parler de ce qu'on appelle l'anthropocène. Alors qu'est-ce que c'est que l'anthropocène, si ce n'est la reconnaissance des effets du dérèglement climatique par l'ensemble des activités humaines? Ces effets, on les connaît tous, hein, les sécheresses, les inondations, des températures évidemment de plus en plus élevées un peu partout dans le monde, dont les effets négatifs sont plus à démontrer. Alors du coup, on explique que nous serions dans l'anthropocène, pardon, l'ère de l'homme, hein, c'est-à-dire, je le répète, l'idée selon laquelle ce serait l'activité humaine qui sont les causes du dérèglement climatique. Mais quand on parle de ça, de quelle activité humaine, quand on la désigne justement responsable de ce changement climatique? Alors là, je voudrais faire référence à plusieurs auteurs, dont deux auteurs, Christophe Bonneuil, qui est historien, et Jean-Baptiste Frézeau, qui ont écrit « L'événement anthropocène, la Terre, l'histoire et nous », et qui nous expliquent que l'utilisation de ce terme a eu au moins l'audace intellectuelle de faire prendre conscience de l'existence du problème et d'enfin dire que c'est bel et bien effectivement les hommes qui sont responsables. Cela étant dit, il pointe aussi la faille, la limite de ce concept, en ce que parler de l'activité en général, c'est parler de l'espèce humaine sans en voir des responsabilités particulières par rapport à d'autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont regretter, en écrivant que si l'anthropocène donc a le mérite hein, de faire prendre conscience de tout cela, ils vont écrire que il devient possible d'écrire des livres entiers sur la crise écologique, sur les politiques de la nature, sur l'anthropocène et sur la situation de Gaïa la Terre, sans parler de capitalisme, de guerre ou des États-Unis, et sans mentionner le nom de la moindre grande entreprise. Donc, oui à l'anthropocène, mais c'est pas suffisant pour désigner justement les vrais responsables. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut parler de ce qu'on appelle aussi le capitalocène? Et précisément, c'est ce que fera Andreas Malm, qui est un professeur universitaire d'écologie humaine en Suède, et qui, lui aussi, va soutenir que si le concept d'anthropocène a le mérite de nommer le problème, il s'agit de désigner les vrais coupables et qui ne sont pas à chercher dans l'espèce humaine tout entière. C'est pourquoi il va écrire que, je le cite, « Si l'on veut comprendre le réchauffement climatique, ce ne sont pas les archives de l'espèce humaine qu'il faut sonder, mais celles de l'Empire britannique pour commencer. » Alors en effet, Andreas Malm va partir de la révolution industrielle comme de nombreux auteurs d'ailleurs, et pointer du doigt en particulier en racontant l'histoire de la machine à vapeur qui, lorsqu'elle a été entre les mains des capitalistes anglais, va devenir un véritable outil redoutable, dit-il, pour discipliner la force de travail et une arme de guerre impérialiste. Alors en effet, cette machine à vapeur va connaître une progression rapide au point de remplacer en quelques années la force hydraulique, qui elle est pourtant abondante et évidemment nettement moins chère, dans l'industrie textile anglaise. Alors autrement dit, hein, il montre que la production de telle énergie, plutôt que telle autre, est un choix essentiellement politique et économique. Alors par ailleurs, toujours dans ce même texte, en faisant référence à un autre texte qu'il a écrit dans les courriers de l'UNESCO en 2018, hein, dont le titre est « Vue de Dominique, anthropocène ou capitalocène », Andreas Malm, va illustrer l'idée selon laquelle c'est bien un petit nombre d'individus qui contrôlent les moyens de production et qui décident de l'utilisation de l'énergie qui est responsable des ravages dus au dérèglement climatique. Il va raconter l'histoire du passage de l'ouragan Maria qui va être responsable et qui va ravager littéralement l'île. Puisque 95% des habitations, des 70 000 personnes qui peuplent cette île, vont donc se retrouver sans abri. Hein. Et donc du coup, il va bien montrer que c'est l'utilisation de l'énergie qui est responsable. Et par conséquent, c'est une minorité d'individus qui est responsable de ces ravages. Il rappelle d'ailleurs pour ce faire l'ONG Oxfam qui en 2017, puisque ces textes sont parus essentiellement en 2017, rappelle que les 8 individus les plus riches possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Autrement dit, hein, en voulant devenir toujours plus riche, ce qui est la logique de l'accumulation du capital, eh bien, une infime partie donc est responsable des catastrophes et du coup sont indifférents des rapports scientifiques qui sont eux toujours plus armements. Donc, de fait, avec Malm, nous devrions en effet parler de capitalocène. Alors, Vincent, en attendant des changements radicaux qui vont donc imposer des mesures en direction de la minorité responsable, tu veux, je crois, nous parler aujourd'hui d'artistes qui s'engagent.
Exactement. Il y a quelques mois, vous avez parlé, on s'était questionné sur est-ce que les artistes doivent s'engager ou pas. Et là, y en a certains qui ne se sont pas posé la question et qui ont agi. Des artistes tels que Trio, Suzanne ou encore HK utilisent leur musique comme un outil de sensibilisation au changement climatique. À travers des paroles engagées, des mélodies captivantes, ils évoquent les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés tous, en inspirant l'action et l'espoir chez ses auditeurs. En plus de musique engagée, certains artistes, groupes mettent en valeur leurs actions. Leur valeur en action, excusez-moi. C'est le cas du groupe de musique pop à renommée mondiale Coldplay. Le chanteur du groupe Chris Martin nous dit « Je ne pense pas que nous incitons qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Je pense que nous observons tous les actualités et que nous les intégrons. » Et sur leur tournée, le groupe utilise la méthode des 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. C'est une énergie complètement renouvelable qui alimente la tournée et ils ont compensé les émissions de carbone de leur tournée en investissant dans des projets de reforestation et d'énergie renouvelable. Et ensuite, il y a des artistes qui utilisent leur notoriété pour plaider en faveur de politiques environnementales plus fortes et mobiliser leurs fans à agir, en invitant par exemple des associations ou des collectifs à installer des stands de sensibilisation et d'information à l'entrée de leurs concerts. C'est le cas par exemple avec le groupe Chaka Ponk, qui a, lors de la dernière tournée, invité l'ONG de défense des océans la plus combative au monde, Sea Shepherd, ou encore la chanteuse Pomme, qui invite un mouvement pour la jeunesse et le climat qui s'intitule « On est prêt ». En conclusion, tous ces artistes incarnent le pouvoir de l'art et de l'engagement personnel dans la lutte contre le changement climatique. Leur musique et leurs actions inspirent un mouvement mondial pour un avenir plus durable et équitable. Alors que nous cherchons des solutions aux défis climatiques, ils nous rappellent que chaque voix compte et que chaque action, grande ou petite, contribue à façonner un avenir meilleur pour notre planète et les générations futures.
Merci Vincent. Voilà, l'émission Drôle de Dame, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
J'entends parler d'effet de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle.
De la croissance, mon prof déco disait le chômage est une évidence. Pour être compétitif, rien ne vaut quelques licenciements. Tu sais, le capitaliste fait pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Tes envies, tes synthèses, la guerre ou la consommation. Chômeur consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation?
La croissance n'est pas la bonne appellation. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle. We'll be right back.
Donald qui nous tweete, le réchauffement n'existe pas.
Il faut prendre des mesures pour préserver cette planète.
Alors faites-nous confiance, on va trouver la bonne recette.
Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique?
Tandis que sa terre fond, l'ours polaire survit aux eaux.
On voit des pétroliers rêver de migration arctique.
Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.
Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.
Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.
Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.